Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans cette église pour célébrer la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur, c'est la source de notre joie. Ce que dit l'église, le centre de notre foi. Sans elle, dit l'apôtre, notre foi est vaine. Je ne sais pas si vous sentez, mais une fois qu'on a dit ça, il reste quelque chose d'un peu vide. Si je vous dis, je répète, la résurrection est la source de notre joie, bon, où est cette source? Comment l'atteindre? Est-ce que j'en vis? Est-ce que je vais en vivre? Vous voyez, il y a une espèce de petit flou, il y a quelque chose qui, en même temps, on a envie que le Christ soit ressuscité, on croit que le Christ est ressuscité, mais on a du mal à en vivre de la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à vivre de la résurrection du Christ? Il me semble qu'une des raisons, c'est que nous sommes la culture, notre culture est très très importante, l'impact de notre culture, de la culture sur nous est très importante, et nous sommes imbibés depuis notre enfance d'histoires, d'historiettes. Vous savez, ces histoires qui commencent « Il était une fois », « Once upon a time », il y en aura d'autres. Ces mythes aussi, ces mythes qui racontent l'histoire de notre humanité, qui au début de l'histoire de l'humanité ont aidé à expliquer les choses, hein. Le mythe, si vous vous souvenez bien, je le rappelle, c'est un récit symbolique. Voilà. Un récit symbolique qui a une fonction explicative. Voilà. Par exemple, vous connaissez tous par cœur le mythe de Sisyphe, le bonhomme qui monte un rocher en haut de la montagne, et puis au bout d'un moment, il est épuisé, alors le rocher retombe en bas, et il va rechercher le rocher et remonte pour expliquer qu'il y a des choses qu'on fera toute notre vie et que c'est comme le rocher de Sisyphe. Mais il y a d'autres mythes qui ont la vie dure, que vous connaissez par cœur. Le mythe de Zeus et de l'orage. Vous voyez, Zeus serait celui qui est la source de l'orage. Il y aurait un dieu qui présiderait à l'orage sous toutes ses formes. Hein. Pas forcément l'orage qui tombe du ciel, hein, mais la façon de gouverner, par exemple. Récemment, on a comparé notre président de la République à Zeus. Vous voyez ? Intéressant. Pour montrer que vraiment les mythes sont profondément ancrés dans notre... Mais il y a d'autres mythes. Le mythe de Perséphone, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, c'est la fille de la déesse Déméter, déesse de l'agriculture, c'est à la mode. Elle a été enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Et c'est ce qui explique l'hiver, le changement des saisons. Parce que quand Déméter est revenue à la surface, boum, c'était le printemps. Vous voyez, les mythes, c'est des histoires qui sont autour de nous, qui sont quelque part en nous et qui nous expliquent logiquement les choses telles qu'elles sont maintenant. Et du coup, ça nous fait passer à côté, doucement mais sûrement, à côté de la résurrection. Tout doucement, ça nous fait passer à côté de la résurrection. Bah oui, c'est Noël, c'est le Père Noël. Faut surtout pas dire aux enfants qu'il n'existe pas. Vous voyez ? Et on glisse. Alors que la résurrection, c'est un tremblement de terre, en vrai. La résurrection, c'est comme disent les Anglais et ceux qui aiment les anglicismes, j'ai trouvé ça récemment en préparant cette homélie, un game changer. Ça, c'est le truc à la mode. Un game changer, ça change le jeu, ça change la vie, ça va changer votre vie. Le game changer, disent les Anglais, ça change la vie. Moi, j'aime bien une autre image. Imaginez que vous courez sur la plage. Aujourd'hui, on court, hein, tout le monde court. Alors, à Paris, oui, ça, on est les champions, mais dans l'Évangile, Pierre et Jean courent. Alors, imaginez que vous courez Mais au lieu de courir vers la grotte, vous courez vers la mer. Vous courez, vous êtes sur la terre, c'est solide. Vous avez le sable, au début, qui glisse un peu sous vos pieds, c'est pas facile de courir. Et puis comme la marée est un peu basse, c'est de plus en plus facile de courir. Vous courez vers la mer, vous courez vers la mer, vous courez vers la mer. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Eh bien, c'est la mer. Et là, on s'arrête, sauf si on a envie de plonger, bien sûr. Mais c'est pas le même but, vous voyez, on court, on court, on court, on arrive à... Et c'est la mer. Game changer. C'est plus la même histoire. Il y a autre chose qui se passe. Il va falloir changer de perception. Tous les marins du monde le savent. Il y a ceux qui vivent sur la terre et il y a ceux qui vivent sur la mer. Et ceux qui vivent sur la mer ne vivent pas comme ceux qui vivent sur la terre. C'est deux choses qui sont complètement différentes. La résurrection, c'est un peu ça. La résurrection, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension de la réalité. Nous n'avons pas accès à toute la réalité. On le sait bien au fond de notre cœur. D'ailleurs, toute la littérature, toutes les fictions, toutes les séries, beaucoup de séries, je ne regarde jamais, mais on me l'a raconté. Les séries ne font que raconter une autre dimension, soit les fictions, soit une autre dimension de la poésie, une autre dimension de la vie de l'homme et de la femme, d'autres possibilités, d'autres libertés, comme si la vie sur la Terre, quelque part, on cherchait à pousser les murs de la réalité humaine, voyez, par nous-mêmes. Alors on s'invente des histoires. On invente des histoires plus ou moins fines, plus ou moins intelligentes, et parmi elles, les plus intelligentes utilisent justement les mythes. Relisez Harry Potter, c'est bourré de mythes. Et c'est pour ça que ça marche. Pour ça que ça a très bien marché. L'auteur d'Harry Potter est vraiment quelqu'un de très très fin et de très très intelligent. Et c'est beau de voir cette œuvre créée de cette façon-là. Mais la résurrection, vous voyez, c'est autre chose qu'un mythe. La résurrection, c'est Jésus qui est mort, ça c'est sûr et certain. Le chef des centurions l'a vérifié. Vous savez, un centurion romain, c'est un gars qui a l'habitude de voir des cadavres. Donc quand il est monté sur la croix avec son échelle pour vérifier que Jésus était mort, pour dire ensuite à ses soldats, vous pouvez le descendre, il était mort, Jésus est vraiment mort. Et tout le monde l'a vu. Et beaucoup de gens le connaissaient, Jésus. Donc quand sa mort a été annoncée, tout le monde l'a raconté. Il y a des événements comme ça qu'on n'oublie pas. Un type qui est mort de cette façon-là. C'est très original la façon dont Jésus est mort, avec sa couronne d'épines, avec les criteaux, avec tout le déroulé qu'il y a eu, tout le traquenard politique pour que les Juifs arrivent à crucifier Jésus. Alors, le jour même de leur fête, c'est unique, la mort de Jésus, dans l'histoire du monde. Mais ce qui est encore plus unique, c'est sa résurrection. Parce qu'au tombeau, quand ils arrivent, c'est vide. Alors moi, on a l'impression dans l'histoire, quand ils arrivent au tombeau, ils ont allumé sur un bouton électrique et ils ont vu que c'était vide. Ça me fait toujours rire, cette histoire-là. Ils arrivent au tombeau, vous imaginez la scène, un tombeau. Vous voyez un tombeau, c'est un tombeau. Je veux dire, il y a un trou et à l'intérieur, c'est noir. Hein, voilà. On a l'impression dans l'histoire qu'ils arrivent, qu'ils appuient sur un bouton électrique et qu'ils voient les linges qui sont posés sur eux. Si Jésus, s'il n'y a rien dans le tombeau, ce n'est pas les Romains qui avaient la vocation de garder le tombeau justement, qui l'ont pris. Et ce ne sont pas non plus les Juifs, et je vous rappelle que les disciples de Jésus étaient des Juifs, tous. Ils étaient Juifs. Pourquoi ce n'est pas les Juifs? Ben parce que les Juifs ne touchent pas les morts, parce que c'est le péché. Tu touches un mort, tu deviens pécheur. Et quelque chose de la mort se communique à toi. Et le fait que les linges soient pliés, c'est pas un voleur qui fait ça. En général, les voleurs, ils rentrent, ils cassent, ils prennent et ils repartent dans l'autre sens. Et là, on a l'impression que Il y a une mère de famille qui est passée par derrière pour ranger le et passer le fer à repasser. Vous voyez. Il y a ça, et puis il y a aussi les anges qui sont là. Comme il n'y a pas de bouton électrique, les anges sont là et on imagine que la lumière vient des anges. Qu'est-ce qu'il voit Jean ? Rien. Qu'est-ce que voit Pierre ? Rien. Et pourtant, il croit. En partie à cause de ce que je viens de vous dire. Mais ça ne va pas suffire parce que les apôtres vont avoir vraiment beaucoup de mal, comme nous, à croire à la résurrection. Qu'est-ce qui va les aider à croire à la résurrection ? Ce sont tout simplement les apparitions. Et on va avoir ce récit des apparitions à partir d'aujourd'hui, ces récits où Jésus va apparaître à 500 personnes à la fois. Un mort qui apparaît à 500 personnes à la fois. Ça aussi, ça change la donne. Ce fameux jour où Jésus, sans être dans la pièce, entend que Thomas ne croira que s'il met la main dans les plaies, alors que Jésus n'est pas là. Et quelques jours plus tard, ils se réunissent à nouveau et Jésus est là. Et Jésus dit à Thomas, alors qu'il était censé être absent, « Mets tes mains dans mes plaies ». Ça veut dire que malgré le fait qu'il soit invisible, il est là. Il y a un autre épisode encore où Jésus est sur la plage en train de manger une sardine, on s'imagine, ou un Saint-Pierre. Pourquoi Jésus mange ? Pourquoi les apôtres voient Jésus manger ? D'ailleurs, ils n'y croient pas au début. Puis ils s'approchent et ils voient Jésus qui mange. Qui mange ? Bon, on va tous faire tout à l'heure. C'est pour nous montrer que Jésus a traversé la mort et que ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une histoire. Il est mort et il est encore vivant. Parce qu'il a traversé la mort et qu'il est ressuscité. Et le grand changement, c'est que si nous adhérons à cette vérité, notre vie, à nous aussi, elle va changer. Parce que du coup, la mort n'est plus jamais la fin. Ce n'est pas la fin de l'histoire, la mort. Du coup, nos peurs vont disparaître, normalement. Et si elles ne disparaissent pas, nos peurs, il faut simplement poser un acte de foi. Seigneur, je crois en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Je crois en ta résurrection, Jésus. Et à ce moment-là, les peurs disparaissent. Parce que mon père qui est mort ou qui va mourir, eh ben, ce n'est pas la fin de l'histoire. Comment le vérifier ? Mais c'est très simple. Il suffit de prier les morts, de prier ceux qui sont morts, ceux qui sont au ciel. On le fait tout le temps ici. Et on fait tous l'expérience, un jour ou l'autre, d'avoir senti papa, maman, grand-papa, grand-maman, les saints venir nous aider. On a senti, mois dernier, c'était impressionnant de voir à quel point Saint-Joseph nous a sortis de pétrin, mais incroyable. Ça, c'est la preuve de la résurrection. Le simple fait de manger Jésus, de ressortir de cette église et d'être dans la paix et dans la joie, ça, c'est encore la preuve de la résurrection. Ce n'est pas une construction psychologique. Le nombre de personnes qu'il y a dans cette église est dû à quoi ? Au fait que les prêtres soient des gars bien ? Les 20 dernières années montrent que non. Pas tous, et que l'Église est terriblement pauvre et faible. Alors pourquoi vous êtes là ? Parce que vous êtes poussé par l'Esprit Saint, parce que vous attendez la résurrection, parce que vous voulez vivre de la résurrection. C'est ça, le changement. Le vrai changement. Le changement profond, c'est une guérison intérieure qui vient aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Bien sûr, on a 40 jours pour en parler, de la résurrection. Mais si vous le voulez bien, demandons à la Sainte Vierge, qui a vécu ça aussi, demandons à la Sainte Vierge vraiment de nous aider à goûter à cette réalité. Jésus est vraiment ressuscité, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, c'est une vérité, c'est la vérité qui nous fait vivre et qui est la source de notre joie. Amen.